Vous écoutez
RMC.
Des mineurs libérés dans le cadre d'un vide juridique. Bonjour Sacha Stropskan, merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice. Les deux assassins présumés du jeune Chemsidine ont été libérés dans le cadre d'une faille dans la loi. Cet adolescent de 15 ans, il avait été roué de coups à la sortie de son collège. C'était en avril 2024. Depuis, leur procès n'a toujours pas eu lieu. Et ils sont donc libres. Leur libération a d'ailleurs été filmée et jetée sur les réseaux sociaux comme une sorte de trophée par leurs copains qui les attendaient à la sortie de la prison. En tant que porte-parole du ministère de la Justice, honnêtement, comment vous pouvez ne pas avoir honte ce matin ?
De fait, c'est une situation dramatique. Personne ne le contexte. Après, il y a deux sujets. Vous avez le sujet global de ce vide juridique qui a été effectivement créé par cette censure du Conseil constitutionnel. Puis vous avez le cas d'espèce que vous évoquez, où malheureusement, même si la loi avait été prise dans les temps, c'est-à-dire avant le 1er juillet 2026, en vérité, probablement que la libération de ces deux jeunes n'aurait pas pu être empêchée, puisque ce qu'a dit la Cour d'appel dans ce cas précis ne relève pas en fait de ce vide juridique. Relève du fait que c'est un peu technique et j'en suis désolé pour vos auditeurs.
Mais moi je voudrais comprendre, qu'est-ce qui peut justifier aux yeux de la justice deux meurtriers présumés d'un autre jeune qu'ils ont tabassé à mort à la sortie de son collège parce qu'il avait des liens avec leur sœur, cette histoire monstrueuse, que ces deux jeunes puissent sortir comme ça, comme triomphants?
Très clairement, c'est une erreur de droit. C'est-à-dire qu'il y a un an, le Conseil constitutionnel dit que pour maintenir des mineurs en détention, il faut une ordonnance séparée, c'est-à-dire une ordonnance de maintien en détention, et que le juge d'instruction, dans cette procédure, n'a pas pris une ordonnance séparée pour les maintenir
en
détention.
Ça fait beaucoup d'erreurs quand même, non ?
Je ne peux que le constater, d'autant plus qu'effectivement c'est un dossier dramatique, mais là, pour le coup, dans ce dossier précis, on pourra parler ensuite du vide juridique qui a été laissé par la censure du Conseil constitutionnel.
J'ai envie de vous dire, c'est presque pire, parce qu'il y a le vide juridique. Bon, ça, on a bien compris qu'il y avait eu un raté dans la transposition ensuite du droit, ou l'adaptation du droit, on va y revenir en effet. Et puis, il y a des erreurs. La semaine dernière, c'était à Rouen, où un meurtrier violeur présumé a été libéré par erreur, dans le cadre aussi de ce vide juridique, mais sans que ce soit en lien direct.
C'était un majeur, alors que le vide juridique ne concerne que des mineurs.
Et puis là, ils se sont trompés. Ils ont mal lu, visiblement, la date de naissance. Et puis ces deux adolescents, donc au moment des faits et du meurtre de Chemsidine, je voudrais quand même que vous écoutiez les mots de maître Pauline Rago. C'est l'avocate de la mère de Chemsidine. Et elle raconte la douleur de la maman à l'annonce, donc, de la libération de ces deux meurtriers présumés.
C'est une mère aujourd'hui qui est effondrée. Elle ne dort pas depuis la remise en liberté de ces deux individus qui ont tué son enfant dans des conditions particulièrement abominables. C'est une mère qui a peur. On aurait pu l'imaginer quand même, pour des faits de cette gravité, une mise sous bracelet électronique, au moins dans leur contrôle judiciaire, voyez, une obligation de pointage par exemple, ou tout simplement d'interdiction de contact avec la famille de Chemsidine.
Parce que pour ajouter à la folie de ce qu'on est en train de raconter, non seulement ils ont été libérés, mais le contrôle judiciaire est extrêmement léger. Ils n'ont pas à pointer tous les jours et ils n'ont pas d'interdiction de rentrer en contact avec la famille de celui qu'ils ont tué.
Alors, sur la décision de contrôle judiciaire, moi je peux pas la commenter en tant que porte-parole de la chancellerie, c'est une décision de magistrat indépendant. Une chose est sûre, c'est que les instructions par contre qui ont été passées de façon générale dans le cadre de ces libérations éventuelles de mineurs, c'est qu'en gros, les parquets soient extrêmement attentifs au respect des contrôles judiciaires, c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, qu'on les suive à la culotte, et qu'en cas de n'importe quel manquement à ce contrôle judiciaire, le parquet demande leur replacement en détention provisoire.
Mais là, il n'y a quasiment pas de contrôle judiciaire.
C'est une décision juridictionnelle de trois magistrats de la chambre de l'instruction.
Mais est-ce qu'il y a un problème avec les magistrats en France ?
Ça, pour le coup, moi, en tant que porte-parole de la chancellerie, je pense qu'heureusement que non. Après, qu'il y ait des décisions qui interrogent nos concitoyens, c'est une évidence. Qu'il y ait une rupture de confiance, comme on a pu le voir ces dernières semaines dans un tout autre contexte, c'est une évidence également. Que cette institution doive se remettre en cause pour essayer de retisser ce lien de confiance avec nos concitoyens, c'est une évidence également.
Rouen, je le disais, un jeune majeur accusé de deux tentatives de meurtre, remis en liberté, pour le coup, en référence à l'idée que les mineurs peuvent être... Enfin, il n'y a rien qui va, en fait, dans cette histoire.
Non, effectivement, vous avez rien qui va dans cette histoire, parce que, et une fois de plus, je pense que ce qui est important, c'est que malheureusement, ces erreurs viennent dans un contexte où il y a déjà un sentiment de défiance très fort envers l'institution judiciaire qui a été exacerbé ces dernières semaines dans le contexte
de l'affaire Liana,
que tout le monde connaît, et que du coup, effectivement, ce n'est pas de nature à réconcilier ou retisser un lien de confiance entre nos concitoyens et l'institution
quand
judiciaire.
Vous voyez, Sacha Stropskan, sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, ces deux jeunes meurtriers présumés qui sortent triomphants de la prison, qui sont accueillis par leurs copains. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que la société aujourd'hui ait le sentiment que les meurtriers présumés, que l'ultra-violence des jeunes est véritablement prise au sérieux ?
Alors, je pense qu'il y a deux sujets. Je pense que le premier sujet, dans le cas d'espèce, est quand même de rappeler que, quelle que soit leur situation en attente de leur procès, un jour, ces deux jeunes, ils vont être jugés. Et que ce qu'ils semblent oublier, peut-être de par leur jeunesse, sans leur trouver d'excuses, mais ce qu'ils semblent oublier, c'est que quand on est jugé pour des faits, mais on est aussi jugé sur sa personnalité. Et que je ne suis pas sûr que le jour où ils comparaîtront devant une cour d'assises pour mineurs, dans un délai assez rapproché, ça soit du meilleur effet, effectivement, que de ne pas laisser entrevoir le commencement du début d'une forme de regret ou de contrition par rapport au fait qu'on a commis. Et donc je pense, pour rassurer peut-être vos concitoyens, sans préjuger de la décision qui sera rendue, puisque pour l'instant ils sont présumés innocents, qu'en tout cas ça ne mettra pas dans les meilleures dispositions la cour d'assises des mineurs, pour dire les choses simplement.
Le Conseil constitutionnel avait donc censuré en juin 2025 une disposition du Code de la justice pénale des mineurs, et vous aviez un an pour mettre la loi en conformité avec cette décision du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été fait dans les temps. Comment c'est possible ?
Alors, vous avez objectivement une lenteur manifeste dans cette histoire.
Mais de qui ? Enfin, est-ce qu'à un moment, quelqu'un va prendre ses responsabilités ?
Puisque dans sa sagesse, le Conseil constitutionnel nous avait laissé un an pour prendre de nouvelles dispositions avant l'application de la censure. En gros, dès que on a été informé de la situation, c'est-à-dire concrètement le ministre, on a trouvé un vecteur législatif dans l'urgence, qui était donc cette fameuse loi qui a été adoptée.
Mais vous avez été alerté quand ?
Il y a quelques semaines, pour être honnête.
Mais pourquoi vous n'avez pas été alerté
Ça, pour le coup...
Ça date de juin 2025,
oui,
cette décision.
Oui, tout à fait. Le sujet, honnêtement, prioritaire pour nous, c'était maintenant de trouver un vecteur législatif pour que le vide juridique soit le plus court possible.
Mais votre priorité, elle s'est faite un an après ?
Et ensuite, il y aura un sujet des responsabilités. Maintenant, notre poids de corps, pour dire les choses concrètement, il a été mis ces dernières semaines sur trouver un vecteur législatif, le faire adopter.
Mais à l'arrache, je veux dire, à une semaine de la fin du délai, quoi, du chrono.
De fait, c'est la situation devant laquelle on se retrouve.
Je n'ai toujours pas de réponse. Qui, à un moment, ça veut dire que pendant un an, personne ne vous a appelé et vous a dit... on a un an pour se mettre en conformité. Ils vous ont appelé une semaine avant.
Il y aura une question de responsabilité qui se posera. Maintenant, c'est juste que la priorité, et je pense que ça tout le monde peut le comprendre, elle a été mise sur trouver une solution à cette difficulté. La solution, on l'a trouvée, puisqu'on a réussi à l'intégrer dans un texte comporté.
Mais quand est-ce que ce sera appliqué ?
En gros, vous avez un texte qui a été définitivement adopté début de semaine dernière. Vous avez maintenant le Conseil constitutionnel qui a été saisi par des parlementaires, notamment des parlementaires LFI, qui va devoir se prononcer dans l'urgence, comme c'est possible. En gros, il a 10 jours pour se prononcer. Donc, on espère que d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, la loi puisse être promulguée et elle sera applicable immédiatement. Donc, ce qui fera un vide au total de 3 semaines.
Une question, après le fiasco de l'affaire Liana, Gérald Darmanin avait annoncé le réexamen de 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. On en est où ?
Alors, il avait annoncé comme deadline le 14 juillet. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le 14 juillet est une journée un peu particulière et qu'elle est réservée notamment au président de la République et puis à un tout autre sujet. Mais ensuite, effectivement, une fois cette date passée, vous aurez les revues avec tous les procureurs généraux de ce pays, les 36 procureurs généraux. Et puis ensuite, on communiquera au fur et à mesure sur les bilans de ces...
Mais vous avez réussi en tout cas à les examiner. Moi, je ne vous demande pas ensuite ce que vous avez trouvé, mais est-ce que vous avez réussi ?
Tout à fait.
Est-ce que tous les parquets de France ont réussi à réexaminer ces 70 000 plaintes ?
Tout à fait. L'objectif qui avait été fixé par le garde des Sceaux sera atteint, et c'est même pas 70 000, au final c'est 88 000 comme on l'a annoncé, plaintes qui ont été passées en revue pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres affaires Liana plutôt Rosa parmi ces dossiers.
Merci beaucoup Sacha Stropskan d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes donc le porte-parole du ministère de la Justice.